Bon matin, auditeurs, auditrices de Boulevard 102.1, 7h43. Très, très content d'avoir la chance de recevoir Maître Philippe Côté, qui est pratiquant en droit de l'immigration et droit de la personne, sur le dossier qui vous a beaucoup fait réagir hier par texto au 971-1021 concernant cette jeune fille de 22 mois, Liana, qui est au Liban actuellement. Ses parents habitent ici au Québec depuis 16 ans. Maintenant, on choisit le Québec comme terre d'accueil et décide d'aller au Liban chercher cette jeune fille-là. Jeune fille qui est attendue dans leur vie depuis 18 ans, c'est ce qu'on pouvait lire hier, un couple qui est ensemble depuis 18 ans. Et là, finalement, quand vient le temps de revenir, oupalaï, ça ne fonctionne pas. On a des problèmes au niveau du dossier d'adoption ici au Québec et au Canada parce que du côté du Liban, tout est approuvé par une juge là-bas. Ce qui fait en sorte que depuis 18 mois, bien, cette famille-là est séparée. La maman est restée là-bas avec la jeune Liana et le papa est revenu ici au Québec. On a eu la chance de discuter avec eux hier. Comme je le disais, ça vous a fait beaucoup réagir. C'est important pour nous, l'équipe du matin, d'aller un petit peu plus loin dans ce processus-là. Comprenez-nous bien, on est rempli d'empathie pour cette famille-là, mais il y a quelque chose au niveau administratif, il y a quelque chose au niveau légal qui dépasse nos compétences. C'est pourquoi on reçoit Maître Philippe Côté avec nous ce matin. Bon matin à vous.
Bon matin.
Merci d'avoir accepté l'invitation. On a plusieurs questions. Par rapport à ce dossier-là, le premier, on va commencer par la base. Comment ça fonctionne, le processus d'adoption à l'international ici au Québec?
Mm-hmm. Donc, quand on fait un processus d'adoption international, il y a deux critères, en fait. Le premier, c'est que les parents d'adoption, donc, résident au Québec, soit domicilié au Québec, puis que l'enfant, lui, soit domicilié à l'extérieur du Québec. Donc, on parle d'adoption internationale, mais même entre provinces, on pourrait dire que c'est de l'adoption internationale aussi.
Okay.
Donc,
okay.
Dès qu'on va en Ontario, que l'enfant réside là-bas, ou qu'il est domicilié plutôt là-bas, bien là, on procède avec les mêmes règles.
Le PQ est content d'entendre ça.
Donc, ça va déjà...
On ne mettra pas Maître mal à l'aise tout de suite. On ne va pas tomber dans la politique.
Il a ri. Il a
immédiatement.
Je ne vais pas commenter, mais j'ai ri.
C'est ça. C'est mon rôle.
Mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est ça. Même entre les provinces, on considère que c'est de l'international. Donc.
Oui, exactement. Okay. Puis, on doit toujours faire affaire, en fait, avec la même entité au Québec. Donc, c'est le Secrétariat aux services internationaux à l'adoption, le SACI, qui est une branche du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, toute demande d'adoption internationale doit passer par eux, parce que c'est eux qui prennent la décision à savoir est-ce que les parents d'adoption peuvent entamer un processus pour justement pas qu'ils fassent face à un refus vraiment trop tard, là, des années et des années plus tard.
Parce que l'objectif, c'est pas de faire... je vais emprunter ces mots-là, mais miroiter aux parents qu'ils pourraient adopter un enfant, puis surtout encore moins un enfant qu'ils pourraient enfin avoir trouvé une famille pour qu'en bout de ligne, ça fonctionne pas, puis que l'enfant puisse jamais venir ici, ce qui est un peu la crainte des parents de la jeune Liana actuellement, au fond.
Là. Exact. Donc, là, le rôle du SACI, c'est vraiment là, de mettre les bases dès le départ. Puis, comment ça fonctionne pour une adoption qui est à l'extérieur du Canada? Donc, on va parler... Par défaut, c'est avec des organismes agréés que des parents adoptants peuvent aller, on va dire, adopter un enfant à l'international. Des organismes agréés, à ma connaissance, il y en a pour 16 pays. On a souvent entendu parler, je veux dire, les gens qui ont peut-être 25 ans et plus, on connaît fort probablement quelqu'un qui a été adopté de la Chine, du Vietnam, ouais. Du Cambodge. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est moins populaire qu'avant. Parce que justement, on a révisé un petit peu les règles avec le temps, parce que c'est une danse qui se danse à deux, c'est-à-dire que le Québec met ses règles, mais les pays qui mettent des enfants en adoption à l'international, eux aussi ont leurs règles.
Mm-hmm.
Donc, c'est toujours là, une négociation qui est faite là, d'une part et d'autre. Mais il y a les organismes agréés. On peut des fois aussi aller sans organisme agréé. Ça, c'est l'exception à la règle. On parle souvent d'adoption intrafamiliale, donc des gens qui ont un neveu, un cousin dont les parents ne peuvent pas prendre soin d'eux dans leur pays d'origine. Donc, ils demandent à un membre de la famille qui est au Canada de les adopter.
Mais encore ça, là, ça fonctionne, mais il y a des règles.
Exact, il y a encore des règles.
Mais ce serait juste pour ces raisons-là. Intrafamilial.
Il y a d'autres raisons aussi qui existent, mais sont beaucoup plus nuancé et quand même, c'est assez exceptionnel. Donc, on parle dans des cas, là, par exemple, où c'est une adoption dans un pays où on a nous aussi la nationalité et que l'adoption internationale n'est pas permise. J'ai pas d'exemple en tête, là, mais vraiment, là, un endroit où on serait comme ressortissant de cette de Canadiens et d'un autre pays.
D'un autre pays.
Ce pays-là n'accepte pas l'adoption internationale. Là, ça pourrait être une exception parce qu'on comprend qu'un organisme agréé ne pourrait jamais se rendre là-bas non plus. Là.
Non, c'est ça. Puis là, organisme agréé en lien avec le Liban, de ce qu'on comprend, c'est qu'il n'en a, il y en a pas. Il n'en existe pas pour l'instant.
Exact. À ma connaissance, moi, il n'y en a pas d'organismes agréés au Liban, ou du moins qui sont établis au Québec, qui font affaire avec le Liban. Ça n'existe pas, à ma connaissance.
Et là, la mère de la jeune Liana, en entrevue hier, nous a quand même mentionné qu'elle avait fait une approche à ce niveau-là. Je crois que madame et monsieur étaient au courant de ça, étaient conscients de ça, mais on leur a quand même transmis un document qu'ils ont pu remplir, qui était comme une espèce d'attestation. Je l'expliquerai facilement là, pour le commun des mortels, encore une fois, là, mais une attestation pour les deux parties de dire vous êtes au courant qu'il n'y a pas justement d'organisme agréé. Nous, on est au courant que vous faites ces démarches-là aussi. Fait que tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait. Tout est beau, let's go, allez-y. Je pense que c'est un peu comme ça qu'eux ont interprété ce document-là. Et là, au final, quand vient le temps de revenir ici au Québec, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, finalement, de traiter le dossier d'adoption de la jeune fille.
Oui, exactement. Je ne sais pas, le papier, c'est quoi exactement qui a été donné? Je ne l'ai pas vu.
On l'a demandé, puis c'est ça, on n'a pas réussi à l'avoir malheureusement avant l'entrevue de ce matin.
J'ai fait la demande, c'est sûr qu'elle est au Liban, fait certains décalages horaires qui est plus complexe, là, donc on n'a pas eu ça ce matin.
Donc, je ne pourrais pas dire c'est quoi qui est écrit sur ce document-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr que peu importe qu'est-ce qui est écrit sur un bout de papier, ce qui prime toujours, c'est la loi. Donc, ça me surprendrait là, qu'il y ait quoi que ce soit, qui soit écrit sur papier qui ne corresponde pas à ce que la loi, régit et dicte.
Fait qu'encore là, rempli d'empathie, une petite parenthèse, rempli d'empathie, je le répète, là, c'est épouvantable ce que vit cette famille-là, mais peut-être manque d'informations, mauvaise information, mauvaise compréhension d'une information qui a été transmise dès le départ par rapport à ce document-là qui, après ça, bon, effet domino et amène la situation que les parents vivent actuellement. Là.
Peut-être, en effet, mais tu sais, je pourrais pas dire. Là.
OK.
On parle souvent d'adoption internationale. Là, il y a le cas de la petite Liana. Eux disent que ça fait des dizaines d'années. Là. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans ce processus-là. De manière générale, est-ce que l'adoption à l'international, ça prend ce nombre d'années-là pour arriver au bout ou c'est exceptionnel? Dans ce cas-là, ça prend combien de temps habituellement pour adopter un enfant qui vient de l'extérieur?
Ça varie avec les années. Parce que la situation qu'on a vue dans les années 90, par exemple, versus aujourd'hui, elle est vraiment pas la même. On parle souvent en termes d'années. Là.
Ouais.
10 ans, je pourrais pas dire si c'est
la norme.
C'est la norme, là, honnêtement, mais ça prend quand même un certain temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. On regarde déjà en partant ici, ensuite, il faut regarder la législation du pays où l'enfant est domicilié, puis tout ça est chapeauté par des conventions internationales aussi. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent prendre des décisions, qui doivent s'impliquer. Déjà que, on va dire juste, quand on applique une loi au Québec, il y a quand même déjà beaucoup d'acteurs. Fait qu'on peut pas s'imaginer quand il y a deux pays plus d'autres conventions qui chapeautent tout ça, à quel point ça peut se rendre complexe assez vite.
Il n'y aurait pas eu de signaux, pas d'alarme, mais de freinage dans une situation comme cela. Si on sort de la situation, mais qu'on en prend quelques-unes, par exemple, bon, des gens qui veulent habiter dans un pays où il n'y a pas de collaboration comme ça, comme le Liban en ce moment, en 10 ans, il n'y a personne qui a levé la main en disant hey, faites pas ça parce qu'il y a quand même un risque que vous ne puissiez pas ramener l'enfant. Ou ce sont des parents, des fois, qui ont quand même tenté leur chance?
Je crois que les deux sont possibles, honnêtement. Donc, il y a des fois des parents aussi qui vous disent, parce que c'est sûr que c'est un besoin qui est viscéral. On veut fonder une famille, on veut avoir un enfant. Fait que des fois, il y a une petite information qui semble farfelue, qu'on ne voit pas, qu'on ne lit pas. Puis ça fait en sorte que, justement, on passe à côté de... On va dire que ça déboule finalement dans quelque chose qui est négatif. Mais quand même, je veux dire, il y a des formations qui existent aussi, qui sont disponibles en ligne. Je pense entre autres sur la TELUC. Là, il y a une formation de 18 heures pour l'adoption internationale, une formation qui est obligatoire à ma connaissance. Puis il y a aussi des associations qui existent pour accompagner ces parents-là pour justement un petit peu là, lever les flags, comme on dit d'avance. Là, je pense entre autres à l'Association des parents adoptants du Québec.
Ça, c'est des outils, c'est ce qu'on doit avoir absolument pour éviter, comme je reprends un peu vos mots tout à l'heure, là, Maître Côté, d'être rendu trop loin dans le processus. Puis qu'après ça, ben là, on se retrouve avec une situation comme celle-là. Je vous rappelle qu'on parle avec le maître Philippe Côté, pratiquant droit de l'immigration et droit de la personne, concernant le dossier de la jeune Liana, maître Côté qui travaille chez Mast Avocat. Je veux vous faire entendre un extrait, justement, de l'entrevue qu'on a eue hier avec le père, puis qu'on revienne sur cet extrait-là par la suite.
Nous sommes condamnés à vivre au Québec sans notre enfant, ce qui ne fait pas de sens. Ce qui ne fait pas de sens. Au nom de l'humanité, ça ne fait pas de sens. C'est comme si le Québec nous dit, vous êtes bien accueillis, vous, toi, monsieur et madame, à vivre ici, mais votre enfant, non. Mais comment ça? Mais c'est un délire ou quoi?
Et dans, on sent la détresse du père. Le père nous en a parlé hier aussi. Là, je tombe vraiment dans le volet très, très humain de l'entrevue. Beaucoup d'anxiété, perte de poids. Il dit que c'est un squelette sur deux pattes. Ça fait 18 mois qu'il attend sa femme, son enfant, dans un pays où on est en bordure d'une situation de guerre. Madame qui nous expliquait qu'elle entend les drones voler au-dessus du building dans lequel elle habite. On comprend tout cet aspect-là. Par contre, un texto intéressant qui est rentré hier par rapport au fait que l'adoption n'est pas nécessairement humanitaire. Ça, je voulais vous entendre par rapport à ça là-dessus, parce qu'on a ce père-là, évidemment, qui lance ce cri du cœur là, hier, mais on ne tombe pas dans le c'est pas qu'on manque d'humanisme, là, c'est pas ça, mais on ne tombe pas dans le côté humanitaire et crise humanitaire non plus, même dans une situation comme celle que madame et la jeune Liana sont en train de vivre, au fond, là.
Oui, exact. Là. Donc, l'adoption, c'est pas une solution en fait à une crise humanitaire, au contraire. En fait, souvent, on va parler plutôt de réfugiés, de demandeurs d'asile, comme on a déjà entendu dans les dernières années. Mm-hmm. L'adoption, c'est en fait une réponse à un besoin pour un enfant, donc à l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas pris en charge par sa famille biologique. Puis là, je parle d'adoption pas juste internationale, de façon très générale. Là. Mm-hmm. Donc, un enfant est adopté parce que sa famille biologique ne peut pas s'occuper de cet enfant-là. Donc non, c'est pas une réponse à une crise, d'autant plus que les tribunaux qui doivent rendre des décisions dans le pays de l'enfant qui veut être adopté, quand c'est un pays qui est en guerre, les infrastructures, des fois, sont pas en place pour entendre ces causes-là, parce que
c'est
justement, il y a quand même un conflit qui crée là, des... Enfin, on va dire qui
mais un
crée,
ordre là, de priorité,
ordre de priorité
à ce moment-là.
Ça, ça pas, là.
Malheureusement aussi. On a tenté, nous, hier, de contacter le cabinet de M. Carman, Lionel Carman. Sa relationniste de presse a fait la réponse qu'il n'y aurait pas de commentaire pour l'instant. On a décidé de ne pas se prononcer là-dessus. Là, on tombe un peu dans l'aspect politique. Il y a Guillaume Clich-Rivard, qui est député porte-parole en matière de services sociaux pour Québec solidaire, qui, lui, est sorti hier en fin de journée dans les médias en sommant la CAQ de mettre fin au moratoire sur les adoptions internationales et de dévoiler les nouvelles balises promises depuis novembre 2024. Est-ce que vous avez des détails par rapport à ça? C'est quoi ce moratoire-là? Puis quelles sont ces fameuses nouvelles balises-là qu'on attendrait depuis 2 ans?
Le moratoire, en fait, existe depuis 2024. Donc, c'était le moratoire pour les adoptions avec des organismes agréés, comme je parlais tantôt. Donc, depuis 2024, les organismes agréés ne peuvent pas ouvrir de nouveaux dossiers parce que c'est d'habitude ces organismes-là, eux, qui gèrent le processus d'adoption. Tantôt, on parlait du SACI aussi, comme quoi que les parents là, de la jeune Liana étaient en communication avec le SACI. D'habitude, quand on est avec un organisme agréé, c'est eux qui font cette démarche-là. Mm-hmm. C'est pas le parent lui-même, parce que justement, c'est très difficile émotionnellement. Mais là, il y a une suspension, il y a un moratoire qui a été fait pour revoir un petit peu la façon de faire, parce qu'on s'est rendu compte avec les années, dans les dernières décennies, que c'était pas toutes les adoptions qui respectaient justement la procédure qui a été établie. Puis quand je dis procédure, c'est pas que le formulaire ABC a mal été rempli ou que c'était pas en Arial 12. Là. C'est vraiment qu'on se rend compte que quand les enfants qui deviennent adultes, les enfants adoptés qui deviennent des adultes, font des recherches pour retrouver leurs parents biologiques, des fois, ça ne fonctionne pas alors que ils devraient être en mesure de pouvoir retrouver leurs parents biologiques ou justement qu'on se rend compte qu'il y avait des fois de la fraude, des fois de l'argent qui avait été échangé pour de l'adoption, pas par les parents qui ont adopté, mais des fois par l'orphelinat, on va dire, dans le pays X, Y, Z. Donc, le moratoire a été fait parce qu'on se rend compte que il y avait des problématiques et que ça doit être réglé. Puis je pense que vous comprenez que pour l'intérêt des enfants qui se font adopter, on veut vraiment que la procédure soit transparente à 100%, ce qui ne l'était pas.
Ben, je veux pas comparer des pommes avec des oranges, loin de là, mais moi, ma maman a été adoptée dans la vie. C'est le 1er juin 2024, justement, que la loi a changé par rapport à ça parce que ma mère est décédée. Entre-temps, pendant un certain temps, j'avais pas le droit de faire la demande du dossier d'adoption. La loi a changé, comme je disais, 1er juin 2024. Là, j'avais le droit de faire la demande du dossier d'adoption de ma mère. La demande a été faite le 26 juin, le 3 juin 2024. J'ai aucune nouvelle. Mm-hmm. Je relance, moi, quand même régulièrement, peut-être aux 2-3 mois à peu près, mais je suis encore en attente 2 ans plus tard du dossier d'adoption de ma mère. Évidemment, il y a eu un flot incroyable de demandes. C'est ce qu'on nous dit à ce niveau-là quand je reçois des réponses. Mais en même temps, j'avais quand même eu une réponse aussi à un moment donné qui disait « c'est quand même assez complexe de faire la recherche de ces dossiers-là ». Fait que même ici au Québec, pour un enfant qui a été adopté ici au Québec dans les années 50-60, retracer l'historique, c'est difficile. Fait que c'est sûr qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut comprendre que le gouvernement, à un moment donné, lève un drapeau en disant « on va juste remettre les pendules à l'heure sur 2-3 affaires là, pour être certain que tout est légal ». Puis c'est sûr que quand on parle d'argent donné à un orphelinat pour avoir des enfants, puis que c'est illégal, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le trafic humain non plus. Là, légalement, ça, c'est... Imaginez que vous adoptez un enfant, puis vous apprenez quelques années plus tard que votre procédure est complètement illégale, puis vous êtes considéré comme quelqu'un qui avait participé à du trafic humain parce que l'orphelinat, la façon de fonctionner, était illégale, n'était pas la bonne. C'est sûr qu'il ne faut pas se retrouver dans ce genre de situation-là. Fait que, d'où le moratoire. Puis les nouvelles balises, tant qu'à elles, qu'on attend depuis 2024, est-ce qu'elles sont supposées s'arrimer à ça et par la suite faciliter le processus